Bienvenue dans l'épisode 33 de Plénitude Podcast. Pourquoi la surcharge d'infos déséquilibre ton système nerveux ? Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour te libérer des troubles liés au stress chronique. Je suis Julie, professeure de yoga et naturopathe, mais aussi une grande sensible, qui a longtemps souffert de troubles digestifs, d'anxiété, d'allergies et d'autres troubles liés à mon système nerveux. Dans ce podcast, je te livre, à mon rythme, des clés de compréhension et des outils concrets pour réguler ton système nerveux et te libérer de tes troubles physiques et émotionnels liés à ce stress chronique qui te gâche la vie. Si toi aussi, tu veux être acteur, actrice de ton mieux-être et de ta santé et enfin ressentir une sensation de plénitude, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Plénitude dédié au stress chronique, à la dérégulation du système nerveux, à l'hypersensibilité qui en découle et à tous les troubles physiques que cela déclenche. Dans ce nouvel épisode, on va parler de la surcharge d'informations que la vie moderne nous apporte et de ses conséquences sur notre système nerveux. Si tu m'écoutes au moment où j'enregistre cet épisode, je sors de 2 mois de tests où j'ai drastiquement diminué les informations que je reçois chaque jour, et notamment via Instagram, pour voir l'impact sur mon système nerveux et sur mon stress, et je dois dire que la détox d'infos, c'est salutaire. Alors, ok, j'ai un peu disparu des réseaux sociaux pendant ces 2 mois, je vais sûrement passer pour une ermite, mais j'en ressors pleine d'apprentissages que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Parmi les caractéristiques de l'hypersensibilité du système nerveux, on retrouve le fait d'avoir des tonnes de pensées qui tournent en boucle dans notre tête, le fait de ressentir plein d'émotions très fortement, les nôtres, mais aussi celles des autres, des problèmes de sommeil, de la fatigue. Toutes ces gènes sont en réalité liées à la surstimulation de notre système nerveux. Alors du coup, on va commencer par voir qu'est-ce qui stimule notre système nerveux. Donc comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 32 du podcast, donc d'ailleurs je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait, car c'est dans cet épisode que je t'explique les bases théoriques indispensables pour comprendre le système nerveux. Donc je disais que comme je te l'ai expliqué dans cet épisode 32, notre système nerveux autonome, il capte en permanence tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi en nous. Toutes ces informations, ce sont comme autant de stimuli que notre système nerveux doit traiter. Et nous n'avons pas conscience de tous ces stimuli, car heureusement nous disposons d'un système de modulation, une sorte de filtre, qui permet d'amener à notre conscience uniquement ce qui est important. Mais le système nerveux, lui, il reçoit bien toute cette somme d'informations, ce qui peut assez facilement l'amener à saturation et déclencher une surstimulation et ensuite une dérégulation vers le mode sympathique ou le mode combat-fuite dont je t'ai parlé dans ce fameux épisode 32. Le fait que ton système nerveux soit plus ou moins stimulé dépend donc largement de ce qu'il va recevoir comme information. La quantité, mais aussi le type d'information que tu reçois chaque jour, va grandement impacter l'équilibre de ton système nerveux. Alors, quels sont les types de stimulation ? Eh bien, tout d'abord, il y a les stimulations sensorielles, toutes les stimulations sensorielles. Donc, il y a les stimulations auditives, tous les bruits, tous les sons que tu vas entendre, les gens qui parlent, qui crient, le brouhaha dans un restaurant ou dans une file d'attente ou une foule, un podcast, de la musique, la télé, tous les sons dans les vidéos des réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, il y a les stimulations d'ordre visuel, donc là, c'est tout ce que tu vas voir. Donc, ton environnement direct, donc s'il y a de la pagaille partout, si c'est bien ordonné, si c'est beau, si c'est moche. Le contenu que tu vas regarder sur les réseaux, sur Internet, à la télé, dans tes séries ou les films que tu regardes, mais aussi tes lectures. Donc, tout ça, ça va être les stimulations d'ordre visuel. Et puis, les stimulations d'ordre tactile, donc là, c'est tout ce que tu vas ressentir à travers ta peau. Donc là, ça va être par exemple le contact des vêtements, la chaleur, le froid, la douleur sur la peau. Des stimulations d'ordre olfactif, toutes les odeurs que tu vas recevoir, les bonnes, mais aussi les moins bonnes. les stimulations d'ordre gustatif, tous les goûts que tu auras en bouche au cours de la journée, et puis les stimulations, celles-là on la connaît un peu moins, d'ordre vestibulaire. Donc là, ce sont toutes les informations qui concernent tes mouvements, le changement de position de ta tête. Donc là, si tu as une sensibilité à ces mouvements, par exemple, tu peux être gêné dans les transports, la voiture, le train, quand il y a de l'accélération sur l'autoroute, ou bien sûr les manèges, les ascenseurs et tout ce genre de choses. Donc ça, ce sont les stimulations sensorielles. Ensuite, il y a des stimulations plutôt d'ordre émotionnel. Là, ça va être toutes les émotions que tu vas ressentir suite aux événements et aux stimuli que tu vas rencontrer dans la journée. Donc ça peut être suite à la lecture d'un email, d'une remarque que quelqu'un te fait, de la lecture d'un post sur les réseaux, ou bien d'un article sur Internet, de l'écoute d'un podcast, en regardant un film ou un documentaire. Donc c'est vraiment toutes les émotions qui vont jaillir en toi en fonction de ce que tu vas voir et recevoir. Mais il y a aussi les émotions des autres personnes avec qui tu vas rentrer en contact. En particulier, si tu as une grande empathie, tu peux, entre guillemets, absorber les émotions des autres personnes sans forcément même t'en rendre compte. Et donc, ça va rajouter de la charge émotionnelle. Et puis ensuite, il y a les stimulations d'ordre intellectuel ou cognitif. Ce sont finalement toutes les pensées qui vont être générées au fil de ta journée, en fonction, encore une fois, de ce que tu es en train de faire comme tâche, comme travail, comme projet, de toutes les pensées également qui sont liées à ta surcharge mentale, avec les to-do lists, les tâches urgentes, l'organisation, tous les emails, les SMS, les notifications, et enfin toutes les idées qui te traversent, puisque peut-être que dans une journée, il y a plein de choses qui viennent en toi, et donc tout ça, ce sont des stimulations plutôt intellectuelles. Et tout ça mis bout à bout, eh bien, ça peut juste faire trop. Trop d'informations de tout ordre à gérer pour ton système nerveux et pour ton cerveau. N'oublie pas qu'il reçoit également toutes les perceptions qui sont internes à ton corps, qu'il doit également gérer, c'est-à-dire les douleurs, les gènes, les informations hormonales, etc., etc. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'en cas de surstimulation, qu'elle soit d'ordre sensoriel, cognitif, émotionnel ou un mélange des trois, lorsque l'afflux d'informations reçues atteint un certain niveau, le système nerveux peut saturer. Un peu comme un ordinateur trop plein qui rame et qui a des bugs. Eh bien, notre système nerveux, lui, il sonne l'alarme. Et c'est l'activation de la réponse sympathique du système nerveux, la fameuse réponse combat-fuite, la réponse du stress. Et si notre société actuelle fait face à une épidémie de systèmes nerveux dérégulés, de personnes anxieuses, hypersensibles, malades, ce n'est pas un hasard. Nos systèmes nerveux n'ont jamais reçu autant d'informations qu'à notre époque. Les chiffres sont hallucinants. Et en fait, nos systèmes nerveux n'ont pas été conçus pour cela. On est littéralement bombardé d'informations chaque jour. Et certainement que peut-être un jour, l'évolution du corps humain tendra à une adaptation de notre système nerveux dans les millénaires à venir, mais pour le moment, notre corps n'a pas pu suivre la rapidité avec laquelle la technologie a évolué. Voyons maintenant quelles sont les sources de stimulation. Cette déferlante d'informations, elle est principalement due à l'évolution du numérique. Réseaux sociaux, séries télé à la demande, email, notifications, vidéos YouTube, podcasts, articles de blog, et puis tout ce qui existe depuis bien plus longtemps, les livres, la presse, la télé, la radio. Nous vivons dans une société qui cherche à capter coûte que coûte notre attention en permanence toute la journée, car il faut bien le dire, notre attention vaut de l'or. J'avais un jour entendu dans un documentaire le dirigeant de Netflix expliquer qu'il n'était pas en concurrence avec les autres plateformes de streaming, mais avec notre sommeil. Ça m'avait vraiment choquée et c'est totalement la réalité. Alors bien sûr, c'est l'excès de tout ça qui épuise le système nerveux. Évidemment que si tu lis un article de blog à un moment de ta journée, ou que tu écoutes un épisode de podcast, ou que tu lis un livre en soi, tout seul, de manière isolée, ce n'est pas ça qui va te surstimuler. C'est l'accumulation quotidienne de tout un tas d'informations qui surstimule le système nerveux. Et puis, certaines technologies de l'information et de la communication sont encore pires que d'autres. Les réseaux sociaux sont particulièrement épuisants pour le système nerveux parce qu'ils cumulent stimulation auditive et visuelle avec toutes les vidéos, les lectures, avec les musiques associées, etc. La rapidité, le fait de passer d'une information à une autre à toute vitesse quand on scrolle sur un réseau social. La stimulation émotionnelle, parce qu'en fonction des réactions que ce que tu es en train de lire va déclencher en toi, cela peut être vraiment délétère. Ça peut déclencher beaucoup d'émotions difficiles comme le jugement, la comparaison aux autres, la baisse d'estime de soi. Et puis ce sont des informations qui sont subies et non choisies. Dans le sens qu'elles ne répondent pas au désir de s'informer sur un sujet, mais plutôt à combler l'ennui ou à déclencher une sensation de récompense immédiate dont on va parler juste après. Donc effectivement, quand tu vas chercher une information sur Internet, tu cherches quelque chose. Quand tu ouvres un réseau social et que tu scrolles, tu subis quelque chose. C'est un petit peu comme quand on regarde la télé et qu'on allume la télé au hasard et qu'on va regarder tout ce qui défile, les pubs, les différents programmes, par rapport à quand on allume la télé à telle heure, tel jour, sur telle chaîne pour regarder une émission qu'on a choisie. Alors maintenant, je voulais te parler du fait qu'on soit un peu tous accros à tout ça. Pourquoi sommes-nous tous accros à nos réseaux sociaux, à nos téléphones et à toutes ces sources d'informations? C'est vrai que je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler de la dépendance, parce qu'il s'agit bien de cela. Alors tu vas me dire, mais pourquoi on n'arrête pas si ça nous fait du mal? Eh bien parce qu'il y a un mécanisme biologique de dépendance qui se crée, exactement comme avec la consommation du sucre, avec la cigarette, avec le sport à l'excès, les achats compulsifs, les drogues, etc. C'est un peu plus proche des jeux de hasard ou des jeux vidéo qui provoquent aussi une addiction qui est sans substance. Donc on appelle ça une addiction sans substance. En fait, cette surcharge d'informations, c'est une addiction à la surstimulation, comme de la junk food pour notre cerveau. C'est pour ça qu'on peut se retrouver à remettre un dernier épisode de série à 22h30 alors qu'on est épuisé, à lire 3 livres en même temps, à avoir 15 onglets ouverts en même temps sur son ordinateur, à scroller sans fin sur les réseaux sociaux et à se rendre compte tout d'un coup que ça fait 45 minutes qu'on est dessus. En fait, cette addiction, elle provient du circuit de la récompense immédiate qui fait intervenir un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Toutes ces stimulations entraînent des poussées de dopamine qui poussent à y revenir encore et encore pour toujours ressentir cette sensation de récompense immédiate. Par-dessus peut se rajouter la peur de passer à côté des informations, de rater quelque chose. On en parle souvent sous le nom de FOMO, qui vient de l'anglais Fear of Missing Out. Donc c'est vraiment cette crainte de ne pas tout voir, de ne pas tout lire, de ne pas tout entendre, de passer à côté. Et moi, en fait, ce mécanisme addictif, je le trouve particulièrement inquiétant. J'en ai bien sûr fait moi-même l'expérience. Et je voulais te partager mon retour là-dessus, en particulier avec Instagram. Prenons le réseau social Instagram. Jusqu'en 2018, je n'avais pas Instagram. J'avais un compte Facebook totalement inactif où j'allais jamais. Et j'utilisais pas du tout les réseaux sociaux. Par contre, je lisais des articles de blog, je lisais des livres, je regardais des séries. Mais tout ça, c'était quand même des choses que je choisissais. D'accord ? Donc on n'était pas dans quelque chose de passif. J'avais un intérêt pour un sujet, j'allais chercher un livre, un article de blog, etc. Puis je me suis inscrite sur Instagram, d'abord en tant qu'utilisatrice, j'ai commencé à consommer un peu de contenu. Et alors évidemment, c'est un monde qui s'ouvre à nous, parce que d'un coup, on a l'impression d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas. Donc quand on est quelqu'un en plus de curieux, comme moi, j'ai trouvé que c'était franchement super. J'avais l'impression tous les jours de découvrir des nouvelles choses. Mais par contre, ça a considérablement alourdi mon existence. Et ça a été encore pire quand j'ai été obligée de... Enfin, on n'est jamais obligé de rien, mais quand j'ai choisi de créer un compte professionnel au moment où j'ai ouvert mon entreprise. Du coup, je suis devenue actrice du réseau en créant moi-même du contenu. Ce qui fait que c'est ajouté alors à ma propre consommation, le temps passé, à consulter et partager le contenu de mes confrères, à répondre aux commentaires, à publier, à créer du contenu, etc., etc. Et l'addiction, elle est devenue plus forte encore. En fait, c'est devenu une sorte d'habitude de cliquer en permanence sur l'application de mon téléphone pour voir ben, qui a vu ce que j'ai partagé, qui a liké, qui a partagé, est-ce que ça a eu un impact, ce post, etc. Et à chaque fois qu'on fait ça, bien sûr, on se laisse déconcentrer de ce qu'on est en train de faire et on se retrouve à scroller parce qu'il y a cet automatisme qui prend le dessus. Finalement, on se retrouve à être abonné à tellement de personnes qu'on voit même plus les publications des gens qui nous intéressent vraiment. Et aussi, il y a le fait de se retrouver, entre guillemets, coincé dans ce paysage d'Instagram virtuel, en fait, que l'algorithme nous a créé et qui finalement est très différent de celui de ma copine à côté, puisque chacun va évoluer dans un monde qui finit par croire comme bien réel, alors que ça représente peut-être 1% d'Instagram et 1% du monde réel. Ce qui fait que ça entretient aussi dans une sorte de bulle des sujets qui nous intéressent. Alors bien sûr, du coup, on voit plein d'informations qui nous intéressent, c'est chouette, mais il y a aussi un petit côté, on se coupe de la réalité du reste du monde. Donc, il y a quelque chose qui m'a un peu... C'est quelque chose qui m'a un peu toujours gênée, cet aspect-là, et aussi, surtout, le fait de ne plus être actrice de ce que je cherche, en fait, et de recevoir et de me laisser, du coup, happer par des choses qui n'étaient pas mon sujet. Alors, je parle même pas de la consommation, là, je parle vraiment de la surstimulation du système nerveux, mais on pourrait faire un épisode à part entière sur le fait que ça nous entraîne à consommer aussi. Voilà. Et du coup, plus récemment, en prenant conscience de l'impact massif que ça a sur le système nerveux, aussi parce que je fais des formations, j'apprends des choses sur le système nerveux, et les réseaux sociaux, ça a été vraiment un de mes grands apprentissages de l'année, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse, que je pouvais pas continuer comme ça. Donc j'ai décidé d'agir sur les conseils de ce que j'ai pu apprendre en formation. Et donc, qu'est-ce que j'aurais fait ? Si j'avais été simplement utilisatrice, j'aurais tout simplement désinstallé l'application de mon téléphone. Et si tu n'es pas un professionnel qui utilise Instagram dans ton travail, franchement, c'est ce que je te conseille de faire. Tout simplement, faire un test pendant 2 semaines, 1 mois peut-être, et voir ce qui change pour toi. Comme j'utilise Instagram pour mon travail, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai commencé par me désabonner de tous les comptes que je suivais. Alors ça a pris un peu de temps parce qu'évidemment Instagram n'aime pas ça, donc il y a un maximum de comptes qu'on peut supprimer d'un seul coup. Donc ça m'a pris plusieurs jours, mais tous les jours je me désabonnais, même de mes amis, de mes confrères, de mes collègues, etc. Je me suis désabonnée de tout pour enlever le côté fil Instagram, scroll, voilà. Ensuite j'ai installé une application qui s'appelle OneSec, c'est une application qui, lorsqu'on veut ouvrir Instagram, nous invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration et nous donne le nombre de fois qu'on a essayé d'ouvrir l'application depuis 24 heures en nous demandant si on veut vraiment l'ouvrir. Eh bien, je t'assure que d'abord, je ne me rendais pas compte du nombre de fois que je cliquais sur cette application. Donc ça a été un vrai choc et ça m'a vraiment donné la motivation de continuer cette détox. Et puis, également, ça m'a permis de prendre ce temps, en fait, justement, dont on a besoin, cette seconde de réflexion pour me dire, en fait, les 80% du temps où je veux ouvrir Instagram, je ne veux pas vraiment ouvrir Instagram. C'est un réflexe. J'appuie sur cette application. Et si je l'avais ouverte, je me serais laissée emporter dans le scroll. Donc j'ai trouvé que c'était génial. Alors évidemment, bon là, j'avais pris la version gratuite, ça durait un certain nombre de semaines, là c'est terminé. Donc si je voulais continuer, il faudrait que je paye cette application pour m'empêcher d'ouvrir Instagram. Et quand, dans la version payante, on peut aussi l'installer sur d'autres applications, si on a d'autres applications comme ça qu'on a tendance à ouvrir tout le temps. Mais je trouve que c'est vraiment un test que je peux aussi t'inviter à faire, parce que c'est des vraies prises de conscience, c'est très motivant. Et je pense qu'on peut regarder, ce que j'avais fait avant, c'était regarder le temps que je passais sur Instagram, mais je me disais toujours... Oui, mais il y a aussi le temps que je passe à préparer mes contenus, à publier, à poster, etc. Mais là, le fait du nombre de fois qu'on clique sur l'application, c'est encore autre chose, parce qu'on voit vraiment le mécanisme plutôt de l'addiction. Et puis, en réalité, même si je fais un post par jour, je n'ai pas besoin d'aller 20 fois sur Instagram, en réalité. Une fois pour poster peut-être, une fois juste après pour répondre aux commentaires, et puis peut-être une fois le soir pour voir un peu dans la journée ce que ça a donné. Ça fait 3 fois, ça fait pas 25 fois quoi. Donc voilà, donc je voulais te partager cette expérience, et puis mon inquiétude, en particulier pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que ce fléau ne semble épargner personne. Je me suis rendu compte que même mes parents, qui ont un téléphone portable depuis peut-être pas si longtemps que ça, et qui ont internet sur leur téléphone portable depuis pas si longtemps que ça, et bien maintenant, je remarque que eux aussi sont très souvent sur leur téléphone, bien trop souvent par rapport à ce que j'ai connu de mes parents avant, et que ce n'est pas que nous les jeunes de bientôt 40 ans, c'est vraiment, ça touche toute la population, même les populations qui n'ont pas connu ça dans leur enfance. Donc je remarque que les adolescents d'aujourd'hui, lorsque je les vois par exemple en réunion de famille, il y a 3-4 adolescents, personne ne se parle. Ils sont chacun sur leur écran et ils ne communiquent pas du tout entre eux. Donc il y a vraiment une baisse de la communication humaine que je trouve très inquiétante. Et du coup, moi personnellement, je m'inquiète vraiment pour ma fille de 8 ans. Qu'est-ce que ça va devenir quand elle sera adolescente et adulte? Donc voilà, gros point d'interrogation et grosse inquiétude. Et si tu es comme moi, ben, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cet épisode ou en DM sur Instagram ou en email. Tout simplement, il y a toutes les infos dans les notes de l'épisode pour me répondre. Alors, maintenant, je voulais voir avec toi, ben, est-ce que tu es concerné par cette surinformation? Même si je crois que personne n'est épargné par cette thématique, hein, comme je l'ai dit. Mais quid des actifs, des parents, des jeunes actifs adolescents? Comment toi tu te situes? Alors je voulais te donner quelques signes de cette surstimulation, de cette surinformation. Si tu te sens saturé, le cerveau plein, le cerveau surchargé. Si tu te sens fatigué et que pour aller mieux, tu as envie de te stimuler avec quelque chose, une série, un podcast, un livre. Si tu as tendance à faire plein de choses à la fois. Comme par exemple, écouter un podcast, mais en même temps, tu réponds à tes messages ou à tes mails ou tu fais autre chose, etc. Sauter sur ton téléphone à chaque fois qu'il y a une notification, même si ça t'interrompt dans ton travail. Parce qu'on peut couper le son des notifications, mais si ton téléphone est posé sur ton bureau, peut-être que tu peux être interrompu visuellement par la notification. T'acheter plein de formations que finalement tu ne suis pas. Avoir peur de rater quelque chose, une information, une nouvelle, une opportunité. T'être abonné à tellement de newsletters qu'en fait, tu n'as même pas le temps de les ouvrir, tu ne les lis pas, tu les supprimes. Empiler des tonnes de livres que tu n'as pas lus et continuer d'en acheter encore. Chercher plein d'informations, lire plein de techniques, d'astuces, de livres de développement personnel sans jamais rien mettre en place, rien implémenter de ce que tu lis. Scroller sur les réseaux sociaux au moindre temps libre que tu as, et même parfois quand tu es avec d'autres personnes, peut-être, je sais pas, à l'apéro avec des amis, en discutant avec quelqu'un, et hop, tu te surprends à avoir pris ton téléphone. Et enfin, prendre des notes en permanence que finalement tu ne relis jamais. Donc si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces situations, eh bien il y a de grandes chances que tu sois concerné par cette surinformation, cette surstimulation. Et du coup, je vais te donner maintenant mes conseils pour sortir de la surstimulation. D'abord, décide clairement de ce que tu veux faire de ton temps. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu as réellement envie d'apprendre, de savoir, de changer chez toi, dans ta vie? Et du coup, concentre-toi sur ce qui est le plus important pour toi, ta priorité, ton objectif principal, même si c'est mon objectif principal, c'est de passer du temps avec mes enfants, mon objectif principal, c'est de lire, mon objectif principal, c'est de faire cette formation pour faire ma reconversion. Il y a plein de possibilités et c'est très personnel, mais avoir la vraie motivation de pourquoi tu as envie d'arrêter de te surstimuler, c'est aussi hyper important. Et aussi de sur quoi tu as envie de t'informer réellement. Et ensuite, je vais te donner donc plusieurs conseils. Les conseils, déjà pour réduire ce flux d'informations, lister toutes les sources d'informations que tu utilises au quotidien. Toutes les newsletters, tous les blogs que tu consultes régulièrement, tous les podcasts que tu écoutes, les pages Facebook, les comptes Instagram, etc. Ensuite, désabonne-toi de toutes les newsletters que tu ne lis pas et que tu supprimes finalement sans les lire à chaque fois. Limite également le nombre de sources d'informations par tes domaines d'intérêt. Donc tu as déjà défini tes domaines d'intérêt au préalable avec tes priorités. Limite tes sources d'informations à 2 ou 3 maximum par domaine. L'idée, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Donc choisis bien les sources qui te paraissent les plus importantes, les plus intéressantes. Et limite-toi à ça. Désactive toutes tes notifications et décide du moment de la journée où tu vas aller regarder tes emails, tes messages, etc. sur des temps que tu choisis toi. Ensuite, bien sûr, je t'invite à tester la détox du réseau social que tu utilises le plus, comme je l'ai fait ces 2 derniers mois. Et évite d'écouter les infos sur la radio, les posts, sur les réseaux sociaux ou la télé. Plutôt, si tu veux écouter les infos du monde, une fois par jour, consulte les news sur le média de ton choix où c'est toi qui décides d'y aller. Et ce sera largement suffisant. Ensuite, quelques conseils qui sont plutôt pour t'aider à garder ton attention pour toi et à choisir où toi tu veux la donner. L'idée, ça va être de séparer les moments où tu t'informes, des autres tâches et activités de ta journée. Et aussi, plutôt de choisir de t'informer intentionnellement plutôt que passivement. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre choisir le documentaire que tu as envie de regarder tel jour à telle heure ou bien allumer la télé et regarder ce qui passe. Et enfin, les conseils pour sortir de l'addiction aux écrans, ça va être déjà d'arrêter d'utiliser ton téléphone comme une alarme pour te réveiller le matin. Comme ça, tu peux le laisser hors de ta chambre et ne pas être tenté de scroller déjà le soir avant de te coucher ou le matin en te réveillant. Essaye ensuite d'utiliser un seul appareil à la fois, un seul écran à la fois. Par exemple, évite d'utiliser ton téléphone ou ton ordinateur en même temps que tu regardes la télé ou une série. Essaye aussi de garder ton téléphone dans ton sac à main si tu es avec des amis, si tu es en conversation avec quelqu'un ou lors des repas. Donc ça peut être aussi même à la maison. Quand je rentre à la maison du travail, je pose mon téléphone et je ne le récupère qu'une fois que mes enfants sont couchés pour être sûr de bien interagir avec ta famille. Et enfin, au niveau du travail aussi, éloigne ton téléphone. Quand tu es dans une session de travail intense, tu n'as pas besoin de le consulter. Donc tu peux le laisser dans ton sac à main sous le bureau ou bien dans une autre pièce si tu fais du télétravail. Je voulais également te donner des conseils pour décharger et pour gérer toutes les informations que tu reçois. Parce que le problème de recevoir des tonnes et des tonnes d'informations, c'est aussi comment on gère ça en termes de rangement, d'organisation finalement, de toutes ces données. Il y a d'ailleurs des nouveaux métiers qui sont apparus dans les années 2008-2010 qui s'appellent manager de l'information. Ça montre à quel point c'est devenu une problématique dans le monde. Donc moi, ce que je t'invite pour cela, c'est à te reporter aux épisodes 28 et 32 du podcast sur la charge mentale et sur l'organisation pour vraiment t'aider, trouver des conseils pour gérer cette partie-là. Et enfin, je ne pourrai pas finir sans te donner des conseils pour te déstimuler. Et ça va être ça, finalement, ma spécialité, puisque les pratiques que je te propose, que ce soit dans le programme Plénitude, dans le programme Pause et en consultation individuelle, ce sont vraiment des conseils pour te déstimuler. Parce que tu l'as bien compris, on vit une société où même si tu appliques tous les points que je viens de te lister juste au-dessus, ce sera déjà génial, mais ce n'est pas si simple à mettre en place. Et du coup, un des meilleurs moyens pour être sûr de passer un moment de ta journée non stimulé et de permettre à ton système nerveux de revenir au mode repos, détente et relaxation, à savoir le mode parasympathique, ça va être de t'offrir des moments de déstimulation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moment de déstimulation? Eh bien, c'est un moment déjà de silence pur avec aucune stimulation. Donc ça peut être déjà régulièrement dans la journée, de fermer les yeux, d'écouter ta respiration pendant quelques instants. Ça, c'est gratuit, c'est facile, ça prend vraiment pas de temps. De s'obliger, entre guillemets, quelques secondes régulièrement dans la journée. Puis chaque jour, de t'offrir au moins tes 20 minutes de décompression totale. Les meilleures méthodes que moi j'ai trouvées, ce sont le yoga restauratif et le yoga nidra dont je parle souvent parce que il n'y a aucun effort à fournir. Et c'est vraiment 20 minutes pour sortir complètement de la surstimulation sans aucun effort. C'est vraiment un temps plus que précieux et nécessaire dans l'époque dans laquelle on vit. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode et ce sujet qui m'a absolument passionnée, je dois bien le dire. C'est un vrai défi pour moi aussi et j'essaye d'appliquer tous les conseils que je te donne, même si c'est pas toujours facile. Par contre, je m'oblige à me déstimuler tous les jours, au moins pour compenser les jours où je me surstimule trop. J'espère vraiment que cet épisode sera pour toi une prise de conscience, qu'il va soulever l'envie de faire attention à cette surstimulation de ton système nerveux et de prendre des actions dès aujourd'hui. Et si tu souhaites toi aussi t'offrir des temps de déstimulation, et par là même de réduire ton stress chronique, je te propose toujours en accès libre le programme PAUSE, mon programme 100% en ligne et en autonomie de relaxation, de repos profond, de régénération du système nerveux, avec le yoga restauratif et avec le yoga nidra. Tu vas pouvoir retrouver tous les détails en lien dans les notes de l'épisode. Et si cet épisode t'a plu, que tu as envie de soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est vraiment de me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast si tu m'écoutes dessus, sur Google My Business ou bien même un petit commentaire si tu m'écoutes sur Spotify. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode et merci pour ton écoute.